je me rendais compte que dans la tradition chrétienne, il y avait quand même une proposition assez étonnante. C'est comme si ce soir on organisait une conférence et puis il y a trois intervenants. Il y a un type qui vient d'Extrême-Orient et qui dit, voilà, moi je suis heureux de vous rencontrer ce soir, j'ai fait une expérience spirituelle qu'on va appeler l'illumination. On m'appelle le Bouddha dans mon pays, mais je vous dis tout de suite, je ne suis pas un envoyé de Dieu. En fait, à vrai dire, Dieu, je ne pose même pas les questions, je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai fait une expérience de sagesse, je voudrais vous la transmettre puisque vous m'invitez. Mais je ne suis pas Dieu, je ne suis pas un envoyé de Dieu, je ne suis pas un prophète. Voilà. Bon, vous l'écoutez attentivement, vous dites, le type a l'air intéressant, bon, très bien. Et puis après, il y a quelqu'un d'autre qui arrive de la péninsule arabique et vous dit, bonjour, moi je suis Mahomet. Je viens avec un livre, le Coran, que j'ai reçu de l'ange Gabriel. Voilà, je vous dis que le monsieur qui vient de parler est très sympathique, on l'aime beaucoup, mais comme il vous l'a dit lui-même, ce n'est qu'un homme. Mais moi, je suis un envoyé de Dieu, il y a eu des prophètes, et je suis le dernier des prophètes. Et ce livre que je vous présente, c'est la loi de Dieu, et je vous invite à vous y soumettre, à vous faire musulman. Et grâce à cette religion, l'islam, eh bien, vous pourrez justement vous rapprocher de Dieu, votre vie aura enfin un sens, etc. Et puis après, il y a un troisième type, un jeune type qui débarque de Palestine et qui vous dit, bah moi, bon, merci de m'avoir invité. Bon, le sujet aujourd'hui, on m'avait parlé de secret d'un engagement, mais enfin, je vois visiblement on parle de Dieu. Bon, bah écoutez, ça tombe bien parce que Dieu, en fait, c'est moi. Donc je vais vous parler de moi. Là, vous avez deux personnes sympathiques qui ont parlé. Donc le Bouddha qui dit lui-même qu'il n'est qu'un homme. Effectivement, c'est moi qui l'ai créé. L'autre qui est un prophète, je vous laisse juger si c'est un vrai ou un faux prophète. Enfin, ça n'engage que lui. Mais comme il vous l'a dit lui-même, il n'est qu'un prophète, un envoyé de Dieu. Tandis que moi, ben voilà, le message et le messager, ben, c'est moi. Vous avez tout dans un paquet cadeau. Et je suis venu vous parler de moi. Donc je vais vous parler de Dieu, c'est-à-dire de moi. Voilà. Je me disais, mais les chrétiens qui disent ça, c'est quand même énorme. Vous voyez, ça jette quand même un froid dans les colloques de dialogue interreligieux. Parce que pourquoi perdre du temps avec le gars qui n'a pas son brevet? L'autre, bon, il a passé son bac, mais enfin, vous avez l'agrégé qui organise qui est ministre, qui organise les examens. Vous n'allez pas perdre du temps avec les deux précédents. C'est ça que disent les chrétiens. Mais ça n'est qu'une partie de l'équation. Et c'est ça qui m'a paru absolument génial sur le plan intellectuel. Dans la proposition chrétienne, et ça m'a paru troublant, c'est que les chrétiens ont cette espèce d'arrogance qui consiste à dire que leur fondateur est Dieu, Jésus, vrai homme, vrai Dieu, comme on l'a dit dans les conciles, mais en même temps, sur le marché des religions, comme on dit, avec tous les petits bouquins que j'avais achetés, la représentation de Dieu des chrétiens, alors je ne sais pas si tous les chrétiens s'en rendent compte, c'est une autre histoire, mais la représentation de Dieu des chrétiens, officielle, ratifiée par l'Église au cours des siècles, c'est que le Dieu qui s'est révélé comme ça en venant habiter parmi les hommes, c'est précisément un Dieu qui aurait pu rester en haut dans son ciel, mais qui vient se faire créature parmi ses créatures. Alors ça, c'est quand même pas banal déjà, mais non seulement il est venu sur terre, parmi nous, mais il n'est pas venu en classe touriste. Il n'est pas venu prendre des photos en disant, ah, ils sont mignons, j'ai bien réussi mon truc, ah ouais, c'est sympa, il y a une bonne bouffe ici à Brive, je reviendrai. Non, il est venu, mais il a été pris, surtout quand il est arrivé à la trentaine, il a commencé à parler et ça a commencé à lui coûter fort cher, puisque à la fin, on le juge et il est condamné, c'est quand même le summum dans la tradition chrétienne, cet vrai homme, vrai Dieu est condamné pour blasphème par le peuple élu et par les autorités religieuses. Et là, il aurait très bien pu appuyer sur le bouton de l'ascenseur, remonter à l'étage au-dessus et se dire, non, quand même, je suis venu, mais je ne vais quand même pas me laisser crucifier, en plus injustement. Mais non, il reste dans cette humanité coûteuse jusqu'au bout, et donc il est rejeté par ses propres créatures. Donc le créateur du ciel et de la terre, le Tout-Puissant, comme on l'a longtemps appelé, comme on l'appelle encore, le Tout-Puissant se fait totalement faiblesse, humilité, serviteur. Il est complètement, pourrait presque dire, le jouet de ses créatures, à la merci de ses créatures. Alors, ça, d'un côté, affirmer que le fondateur est Dieu, mais en même temps affirmer que ce Dieu est totalement inoffensif, que c'est certainement pas lui qui a fait les croisades ou la grande inquisition, le Jésus des évangiles, il n'a jamais obligé personne à croire. Non seulement ça, il a accepté d'être mis dehors de sa propre création. Je me disais, soit les types sont complètement cinglés, soit il y a un trait de génie dans cette présentation de Dieu qui est totalement originale et qui intellectuellement est quand même assez convaincante parce qu'il y a un parfait équilibre de cette équation. À la fois Dieu qui se fait vraiment pleinement connaître en habitant parmi nous, et en même temps un Dieu qui n'est absolument pas menaçant. Parce que par ailleurs, dans d'autres traditions, vous pouvez avoir des dieux transcendants, vraiment le créateur du ciel et de la terre, mais qui, au mieux, va vous donner un livre de bonne conduite, mais ne va pas s'engager lui-même dans l'histoire, et certainement pas, scandale pour les juifs, mais scandale aussi pour les musulmans, certainement pas mourir sur la croix. Et par exemple, dans la tradition musulmane, Jésus, enfin Aïssa, qu'on traduit par Jésus, et qui a certains traits communs avec le Jésus des évangiles, mais relativement peu en réalité, mais en tout cas, n'est pas crucifié. La tradition musulmane dit que Jésus n'a pas été crucifié. Et c'est vrai que si on représente Dieu comme le transcendant, c'est difficile à admettre déjà qu'il puisse habiter parmi nous et qu'en plus donner sa vie injustement accusée et condamnée par ses créatures. Donc, tout d'un coup, je me dis, mais moi, je n'avais jamais pigé ça, alors que j'étais allé à l'église régulièrement, mais je n'avais jamais vu ça. Et je me disais, soit c'est une fable pour enfants, et je la trouvais quand même belle, objectivement belle, même bouleversante, et je me disais, si c'est vrai, il faut quand même que je passe un peu plus de temps à creuser cette histoire, au lieu de lire tous les lundis les comptes rendus des matchs OM-PSG, qui sont importants aussi, mais enfin, ici c'est le rugby. Hein, donc le, voilà. Donc c'est quand même ça, la proposition théologique chrétienne. Et moi je me suis dit, il y a un truc. Alors, ce dont je me rendais compte parallèlement, c'est que la prière non seulement m'avait lancé dans cette recherche qu'on pourrait qualifier d'intellectuelle, enfin de théologique, sur ce Dieu dans cette tradition chrétienne et dans les autres traditions, mais aussi cette prière me transformait concrètement. Alors concrètement, c'était quoi? C'était que tout d'un coup, je me rendais compte que quand j'étais en vacances, ma mère faisait toute la vaisselle et que je pourrais peut-être m'y mettre. Vous voyez, c'était quelque chose qui n'avait pas traversé mon esprit jusque-là. Et des tas de choses comme ça, à tel point qu'à un moment donné, mes amis me disaient « Mais Henri, c'est bizarre, depuis quelque temps, il y a quelque chose qui a changé, on n'arrive pas à comprendre quoi. » Et moi, je voyais bien que la prière, elle avait changé plusieurs choses. D'une part, moi-même, j'étais comblé, mais je me disais « Ça, finalement, c'est assez égoïste, c'est la réponse à mes propres petits problèmes. Enfin, Dieu veut qu'on soit heureux, et ben tant mieux si la prière me rend heureux. » Mais en plus, cette prière, elle m'ouvre aux autres, et « Ah tiens, ça, c'est bizarre, justement, le message chrétien, c'est justement d'aimer son prochain. Aimer Dieu, aimer son prochain, c'est la même chose. » Donc ce truc-là, en plus, ça marche réellement. Et puis la troisième chose, c'était que je me rendais compte que la théologie chrétienne, la représentation de Dieu chrétienne, c'était pas banal, et que, en fait, ce Dieu qui était venu habiter parmi nous, qui avait pris le risque de vivre avec nous, qui avait donné sa vie, et qui donnait sa vie, était une invitation nous-mêmes à donner notre vie aux autres, et que peut-être le secret d'un engagement, c'était cette rencontre de ce Dieu qui nous met en mouvement et qui nous fait entrer dans ce mouvement qu'on va appeler, alors avec des termes un peu techniques, le mouvement trinitaire avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, mais que c'est donc une vie d'amour et de relation et qui donc la prière me plaçait en relation avec les autres. Et alors là, au bout d'un an de prière et de recherche, arrive dans mon esprit une question, mais alors que je ne m'étais vraiment jamais posée, c'est de me dire, bon, mais alors dans cette église des chrétiens, il y a des gens qui décident, par exemple, de ne pas se marier. Donc ils vont devenir prêtres, ils vont devenir franciscains, ils vont devenir moines. Il y a des gens qui aussi, tout en restant mariés, prennent des engagements, peut-être au détriment de telle consécration professionnelle, ou qui, dans leur manière de vivre leur vie professionnelle, font des choix qui sont exigeants, dans leur vie familiale, telle fidélité, etc. Et je me disais, bon, bah, tout ça, ça a des conséquences sur les choix de vie. Et là, je me suis posé pour la première fois de ma vie l'idée que, bon, peut-être que moi, je n'étais pas appelé au mariage comme mes parents, qui pourtant avaient un mariage heureux, que peut-être que bon, je faisais des belles études et que j'aurais un beau travail, mais que peut-être que c'était pas forcément quelque chose à faire automatiquement, donc il fallait que j'invente moi-même ma vie. Et que donc chercher la volonté de Dieu, bah, c'était arriver à voir bon, quels sont mes talents, quel est l'appel particulier pour moi dans le monde. Alors ces questions, sachant que bon, moi j'aimais bien les gentilles jeunes filles et les jolies jeunes filles à l'époque, que j'avais pas du tout l'intention de pas trop gagner d'argent puisque je venais d'une famille aisée, que je me voyais pas si par exemple je me mariais, je me disais il faut quand même maintenir un certain rang. Bon, alors Donc je me dis, bon, tout ça, de toute façon, il faut être sérieux, il faut travailler, je termine mes études. Donc j'ai mis toutes ces questions soigneusement au frigidaire, elles étaient trop dérangeantes. J'ai terminé mes études de sciences économiques, j'ai fait Sciences Po Paris. À l'époque, en France, le service militaire était obligatoire, je suis professeur à Coëtquidan pendant un an. Et puis, j'arrive sur le marché du travail et je déboule dans les marchés financiers. Dans les années 80, il y avait des nouveaux instruments financiers qui arrivaient ici en Europe. Et on manque de spécialistes, on embauche des jeunes diplômés et très rapidement, les salaires flambent. On gagne énormément d'argent. Et on gagne tellement d'argent qu'au bout de 4 ans de vie professionnelle, moi j'ai des propositions de partout, notamment une proposition d'une banque américaine, Merrill Lynch, un des fleurons des banques d'affaires américaines. Et j'ai un type qui m'appelle tous les jours à la salle des marchés, qui me dit, voilà, monsieur Quinson, tout ça se passe en anglais, mais je vous donne la version française. Bonjour monsieur Quinson, nous avons proposé tant hier, je vois que vous êtes toujours indécis, on peut augmenter ça un petit peu, vos bonus, etc. Vous vous rappelez qu'à Londres, les voitures sont gratuites, c'est peut-être la marque de voiture qui vous convient pas, ou la couleur. Après, c'était, peut-être que vous voulez le titre de vice-président, enfin vice-president. Moi, je suis un peu étonné qu'à 28 ans, on me propose un titre de vice-president. J'appelle mon père qui travaille dans une banque américaine, Bank of Stress. Je lui dis, mais à quel âge tu as eu ce titre de vice-president? Il me dit, bah, 50 ans. Je lui dis, mais c'est quand même bizarre. Il me dit, mais c'est les traders, maintenant, c'est nouveau. Les primes montent, les bonus. Alors, on m'explique les primes à Londres, c'est des multiples de mon salaire fixe, qui est déjà assez mirobolant. Et je me dis, oulala, il faut que je me retire et que je réfléchisse un peu à tout ça. Et je pars à ce moment-là avec une amie suédoise qui est en Laponie, au fin fond de la Suède. À l'époque, il n'y a pas de téléphone portable. Je me dis, on va me ficher la paix pendant une semaine. J'y verrai un petit peu plus clair. Mais je sens bien que toutes mes questions de vocation commencent à revenir, parce que ma question, c'est qu'est-ce que je fais de ma vie? Est-ce que le but de ma vie, c'est de gagner de plus en plus d'argent? Est-ce que, donc voilà. Et même en Laponie, alors, Marilyn, j'arrive à trouver un numéro fixe pour m'appeler. Donc il m'appelle, monsieur Quinson, nous sommes très contents que vous soyez en vacances, c'est vraiment très sympathique. Mais alors voilà, demain nous avons le grand directeur de nos opérations de marché de New York qui est de passage à Londres et il tient absolument à vous rencontrer. Ça vous embête pas de venir demain à Londres? J'ai dit, mais moi je suis en vacances en Laponie là, pas de problème, on a regardé les horaires des avions. Donc vous pouvez arriver à Londres à telle heure, vous avez un rendez-vous pour 2 heures d'entretien, et puis après, vous reprenez le chauffeur, vous reprenez l'avion, et vous arrivez dans la soirée à Stockholm, et il n'y a aucun problème. Alors, aussi gentiment dit, je me dis, bon, très bien. Et alors là, je me retrouve, comme je raconte dans mon livre, dans les classes affaires, et je me retrouve avec une coupe de champagne dans la main, et puis de l'autre côté, mon livre de prière acheté en 1985 à l'abbaye de Lérins, et puis je tombe sur un psaume où il est question de la soif de Dieu. Alors, je suis là avec ma soif de bulle, et puis ma soif de Dieu. Je me dis, bon, le Dieu des chrétiens, heureusement, n'a rien contre le champagne. C'est une des grâces de notre religion. Mais en même temps, ça ne fait que soulever chez moi cette espèce de déchirure. Et je me dis, mais il faut que je prenne une décision, là. Qu'est-ce que je veux faire? Je vous passe les détails. Enfin, j'arrive à parler de cette question de vocation à un prêtre. Il me dit, il ne faut pas aller trop vite. Et puis, au bout d'un certain temps, j'arrive à prendre ma décision. Et j'arrive un lundi matin à la banque et je dis à mon directeur, voilà, je vais démissionner. Il me dit, bah, je comprends très bien que tu ailles chez Merrill Lynch, c'est vrai qu'il t'offre beaucoup d'argent, certainement, etc. Je dis, mais en fait, je vais partir pour un monastère en Haute-Savoie. Bon. J'avais réussi à avoir une augmentation de mon fixe de 30%, je crois, un mois avant, avec une prime qui correspond à peu près à mon salaire annuel d'enseignant aujourd'hui. Rien que pour le mois. Donc il comprend pas très bien ma logique. Et puis après, j'ai le gars de Merrill Lynch qui m'appelle. Il paraît que vous êtes décidé. On est vraiment très, très content de travailler avec vous à Londres. Je lui dis, ben en fait, non, j'ai pas décidé d'aller travailler avec vous. Il me dit, mais comment c'est? On n'a pas pu vous proposer plus. Je lui dis, mais c'est pas plus, mais on m'a proposé mieux. Il me dit, mais je comprends pas. La voiture que vous avez proposée, c'était bien celle que vous aviez voulu. Je lui dis, mais en fait, je vais partir pour un monastère. Allô? Alors là, il a réussi à trouver quand même une phrase, c'est l'humour britannique, et il me dit, c'est la seule concurrence que j'accepte. Bon, alors je passe sur les réactions de mes collègues. Je me rappelle un de mes collègues polytechniciens qui me dit, ah bon, mais enfin je lui dis, ben voilà, je pars pour un monastère, et je vois le visage de cet homme très intelligent qui se fige, tel un écran d'ordinateur. Et j'entends le disque dur qui cherche à traiter l'information. mais sans succès. Et nous sommes en 2008, il m'a toujours pas été capable de me parler depuis ce jour. Enfin bon, des réactions un peu impressionnantes. Alors, le secret de cet engagement, en fait, quand on y pense, bah, c'est cette minute de prière au départ, c'est-à-dire cette rencontre en vérité de Dieu, finalement au plus profond de ma misère, puisque j'ai tout dans la vie, mais je me rends compte qu'en fait, c'est rien par rapport au trésor d'une vraie rencontre avec Dieu. Et donc, ayant trouvé cette perle, je commence à en douter en me disant « oui, mais enfin, bon, ce Dieu invisible, peut-être que c'est du toc ». J'essaye de me dépatouiller de cette histoire, et puis très rapidement, en fait, je me rends compte que ce Dieu-là, c'est bien un Dieu vivant, c'est un Dieu qui, justement, crée un engagement. C'est pas un Dieu qui est un Dieu qui nous met en fuite par rapport à nos responsabilités humaines. Et donc là, je présente la démission à la banque, j'entre dans un monastère, donc pour moi, c'est un changement de vie.